Bien, chers amis, je suis heureux de vous retrouver. Je l'ai dit hier, je le redis ce matin. Merci de m'accepter. Nous avons lu hier soir un texte dans lequel il était précisé que nous devons nous supporter les uns les autres. Et je dirais que vous devez me supporter avec un organe quelque peu fatigué. Il se trouve que nous avons bien des désavantages sur certains instruments de musique en ayant d'autres avantages. C'est que nous n'avons que deux cordes vocales. J'espère que vous êtes au clair. Il est pas mal de gens qui pensent que nous avons une série inimaginable de cordes vocales alors que nous n'en avons que deux. Et ces deux, quand elles souffrent, eh bien ça pose quelques problèmes. Mais le Seigneur est bon de m'avoir conservé suffisamment de voix jusqu'à présent pour partager avec vous le message de sa parole. Il est fidèle. J'aimerais que nous ajoutions au texte déjà lu tout à l'heure par notre frère un second texte dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu au chapitre 5, versets 21 à 26. J'espère que chacun d'entre vous m'entend. Je ne forcerai pas davantage ma voix. Veuillez simplement éventuellement vous avancer, il y a de la technique là-bas au fond qui se charge de compenser mes faiblesses. Matthieu 5, versets 21 à 26. Il s'agit donc de la charte du royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point ». Celui qui tuera est passible de jugement. Littéralement, tu ne commettras point de meurtre. Il faut faire la distinction, parce que les Écritures dans le texte original la font. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement. Que celui qui dira à son frère « Raca, stupide », mérite d'être puni par le Sanhédrin, le tribunal juif, et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne, à l'origine le dépotoir de Jérusalem, qui fumait continuellement dans une des vallées, le Gehinnom, et qui est devenu simplement la figure, l'annonce, l'image de l'enfer dans sa réalité telle que le Christ en parle à diverses reprises. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant, le dernier centime. Je ne vais pas résumer tout ce que nous avons partagé hier. Nous avons fait de la doctrine hier soir, mais de la doctrine absolument fondamentale. On ne peut pas bâtir de message sur la pratique du pardon sans en voir les fondements bibliques, doctrinaux, à travers l'ensemble des Écritures. Nous avons considéré quelques textes qui tisse la trame de l'Épître aux Colossiens en ce qui concerne cette question importante du pardon. Et nous avons affirmé sur la base de cet Épître aux Colossiens, d'une part, que le pardon de Dieu est un pardon libérateur. Ceci nous est dit notamment dans Colossiens 1, versets 12 à 14. Le pardon de Dieu est un pardon réconciliateur à partir du verset 20 du même chapitre, c'est-à-dire toujours le chapitre premier de Colossiens, et jusqu'au verset 23. Et puis nous avons parlé du caractère absolu du pardon. Le pardon de Dieu est entier, total, absolu. Ceci nous est fortement souligné dans Colossiens au chapitre 2 et dans les versets 13 à 15 essentiellement. Pardon libérateur, pardon réconciliateur, pardon le plus absolu qui soit. Et nous avons dit que c'était avec cet arrière-plan absolument nécessaire que dans la partie pratique de l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, notamment, et au verset 13, l'apôtre ajoute « Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous, faites-vous grâce réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi comme Christ vous a pardonné. » Et nous avons souligné avec insistance ce fait que, de la même manière que le pardon de Christ est un pardon libérateur, réconciliateur et total, entier, notre pardon doit revêtir ces trois caractéristiques vis-à-vis de notre prochain, quel qu'il soit. Et nous avions rejoint cette pensée dans notre conclusion, après avoir examiné le thème de la propitiation à travers les Écritures, c'est-à-dire comment Dieu accepte de nous être favorable, de nous être propice, toujours sur la base du sang versé au travers des Écritures. Nous en sommes arrivés dans notre conclusion à trois enseignements extraordinaires concernant la réconciliation opérée par Dieu en Jésus-Christ entre nous et lui-même. Premier enseignement, c'est Dieu qui a pris l'initiative de la réconciliation alors qu'il est l'outragé, l'agresser dans sa parfaite sainteté. Et nous avons souligné qu'il ne s'agissait pas d'un outrage mineur, mais de quelque chose d'infiniment grave, d'infiniment sérieux, vu l'attitude de perversion, de perversité de l'homme qui s'est rebellé contre son Créateur malgré toutes les évidences de son existence, malgré toutes les manifestations de certains aspects de son caractère. Second enseignement extraordinaire, cette initiative de réconciliation lui a coûté extrêmement cher. C'est une démarche qui est imprégnée de sang innocent, et du sang innocent du Fils de Dieu lui-même. Il a mis nos outrages sur son Fils et l'a puni à notre place. Et nous avons considéré quelque peu toute cette dimension importante. Et enfin, troisièmement, et nous sommes heureux de le vivre ce matin, et pas seulement ce matin, mais d'instant en instant, jour et nuit, d'heure en heure, nous qui avons accepté personnellement d'être réconciliés avec le Père par la mort du Fils sur la croix, nous avons une entrée libre. Je ne l'ai pas dit hier soir, mais vous le savez, lorsque Christ mourait sur la croix au moment même, le voile séparant le lieu saint du lieu très saint dans le temple de Jérusalem se scindait en deux, se déchirait du haut en bas sans aucune intervention humaine. C'était le fait de Dieu lui-même qui voulait matérialiser la libre entrée, l'entrée hardie, spontanée, continuelle, que nous avons les uns et les autres dans la présence de l'agressé. Et ce fait que Dieu n'a pas à notre égard le moindre ressentiment. Dieu n'a pas à notre égard le moindre soupçon de haine. Pas un seul instant, lorsque nous sommes pardonnés, au moment où le Christ est reçu dans nos vies, où nous devenons demeure permanente, éternelle du Saint-Esprit, pas un seul instant, Dieu ne nous rappelle notre passé pour nous le reprocher. Il arrive qu'il nous le rappelle, mais dans un autre but, pour que nous puissions nous réjouir dans son amour et pour que nous soyons gardés en étant debout de tomber à cause de cette tendance si facile que nous avons d'oublier d'où nous sommes issus et comment nous avons été sauvés. J'aimerais simplement, avant d'aller plus loin, évoquer ici ce qui se passait dans l'Antiquité, chez les Grecs et les Romains, où l'on avait trouvé une méthode d'assistance simple et profondément belle. Lorsqu'un voyageur se rendait en pays lointain et qu'un ami désirait le recommander comme un frère à un personnage important, eh bien, on prenait une petite plaquette de métal ou de porcelaine ou une pierre blanche plate que l'on brisait en deux, ou si vous voulez, plus soigneusement encore, que l'on découpait selon un dessin convenu à l'avance. Et ces plaquettes, partagées en deux, portaient un nom très particulier chez les Grecs. On appelait cette plaquette le symbolon, et chez les Romains, chez les Latins, le tessère. Et un des fragments de cette plaquette était envoyé à l'avance chez le personnage important. Et le porteur de la deuxième partie du symbolon, celui qui désirait obtenir service auprès de ce personnage important, arrivait chez lui en étant porteur donc de la deuxième partie du symbolon. Et quand il arrivait, qu'il se présentait, son seul rôle était de présenter le fragment qu'il avait entre les mains. Et si les deux fragments, celui qui avait été apporté au préalable par le messager et qui était entre les mains du personnage important et celui que le porteur venait de lui présenter, si les deux fragments s'emboîtaient l'un dans l'autre, alors le personnage important considérait le visiteur comme son meilleur ami et était disposé à lui rendre tous les services possibles et imaginables. Eh bien, disons simplement que nous avons encore là une image extraordinaire de ce que Christ a fait pour nous lorsqu'il a brisé le symbolon de sa propre vie. Il nous a dit que le Fils, dans la présence du Père, présente le symbolon de sa vie, il présente en quelque sorte son sang de manière continuelle, comme si Dieu avait besoin, mais ce n'est pas vrai, nous parlons dans un langage humain, n'est-ce pas, de ce rappel permanent du sacrifice de Jésus-Christ. Chaque fois que je tombe en quoi que ce soit, chaque fois que je fléchis, chaque fois que je suis attaqué, le Fils présente le symbolon de son sang au Père. Et moi-même, j'ai libre accès, j'ai hardiesse d'entrer dans la présence du Père, tout simplement parce que j'ai l'autre partie, si vous voulez, n'est-ce pas ? Christ est à la fois dans ma vie, par le Saint-Esprit, et dans la présence immédiate du Père. Et c'est ainsi que, continuellement, je peux avoir accès au secours permanent du Père pour chacun de mes besoins. Celui qui accepte le Fils est pleinement reçu du Père. Si nous sommes réconciliés avec Dieu, et j'ose croire ce matin que ce soit le cas de tous, Nous avons un service de réconciliation. Notre frère nous l'a lu. Nous n'allons pas développer ce texte, nous aurions pu le faire, mais nous avons un ministère, un service de réconciliation. Nous sommes ambassadeurs chargés d'office de réconciliation auprès des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants de ce monde qui sont sans Dieu et sans espérance. Et puis nous avons un service de réconciliation dans l'Église locale. Une condition fondamentale pour pouvoir présenter le réconciliateur à l'extérieur de nos murs, en dehors du corps de Christ aussi, une condition fondamentale, c'est d'être et de vivre en réconcilié dans l'Église, dans la famille, dans nos rapports avec les autres, et notamment par la pratique du pardon réconciliateur. Je crois que nous ne prenons pas la scène aujourd'hui, mais j'aimerais dire ici que un des sens de la scène est d'être précisément un repas signe de réconciliation. Et il me semble qu'on ne le dit pas assez. Un de mes amis au service de Dieu en Afrique francophone, avec lequel je partageais une série de conférences en Côte d'Ivoire il y a 2 ans, a dit ceci. En Afrique, le souvenir d'une injustice commise, un meurtre, par exemple, peut durer de génération en génération. Et lorsqu'on désire effacer la mémoire, les deux clans concernés organisent un repas en commun. Les principaux ennemis mettent la main dans le même plat. Ainsi, le souvenir de l'inimitié est effacé. Dorénavant, il n'y aura plus de vengeance. C'est le repas de la réconciliation. Et au moment où l'Église de Jésus-Christ, le dimanche, à l'occasion du culte, ou à tout autre moment de la semaine, il n'y a pas de loi fondamentale dans les Écritures qui limiterait la scène à l'exercice du culte. Il faut le dire aussi au passage. Et j'ai vécu certains services de scène dans des foyers de manière absolument extraordinaire dans mon ministère. Mais disons que le dimanche matin, lorsque deux frères et sœurs mettent la main dans le plat au même instant, combien il est nécessaire que leur geste ne soit pas en contradiction avec leur vécu. Il est des gestes qui nous condamnent. Et je me souviens du temps où, en Bretagne, nous avions dans notre église 2 sœurs, toutes 2 issues de l'armée du salut, fidèles au Seigneur, mais qui ne pouvaient pas se sentir. Elles étaient là, dans notre vie d'église, lorsque j'ai pris mes fonctions dans cette communauté. Et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait là un problème sérieux, d'autant plus qu'elles se retrouvaient le dimanche matin, parfois côte à côte, et qu'elles mettaient la main dans le même plat. Et il a donc fallu engager tout un processus de mise au point, d'entretien, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de contradiction entre le geste de la scène et leur pratique relationnelle l'une par rapport à l'autre. Notre participation doit être une affirmation, un témoignage personnel. La scène, c'est une parabole qui affirme ma réconciliation avec Dieu. Je suis reçu à sa table et avec mes frères à cause du don de Jésus-Christ. Et bien sûr, chaque fois que nous prenons la scène et que dans un de ces 2 domaines, il n'y a pas vraiment une vie pratique de réconciliation, elle devient un jugement. contre nous-mêmes. Nous avons lu dans Matthieu 5, 23 que si mon frère a quelque chose contre moi, je suis invité avec insistance à me rendre d'urgence auprès de lui, précédant tout acte de piété, quel qu'il soit, pour régler mon problème. Nous leur dirons cet après-midi, il y a urgence. Il y a extrême urgence, si nous ne voulons pas nous retrouver en prison. Et il est intéressant de constater, nous l'avons à peine entrevu hier soir, que dans Matthieu 18, dans l'histoire du serviteur impitoyable, il est aussi question de prison pour celui qui ne pardonne pas. Et il est des croyants qui se retrouvent en prison, complètement ligotés par leur rancune ou par leur refus de demander pardon à telle ou telle personne de leur entourage. Et nous pourrions longuement en parler de ce que signifie la prison. Je dirais qu'il y a la prison précisément de nos propres rancunes. Tant il est vrai que celui qui vit et qui cultive la rancune, l'amertume, la haine, secrète un poison qui atteint non seulement les autres, mais sa propre vie. Nous sommes tout à fait semblables à l'abeille qui, lorsqu'elle a piqué et par là même perdu son dard, non seulement provoque, et qui ne le sait pas, une douloureuse souffrance qui peut même être très grave dans la vie de sa victime, mais qui provoque une souffrance telle que l'abeille meurt elle-même dans les heures qui suivent. Ça, c'est une forme de prison, n'est-ce pas? Nous souffrons dans la prison de nos rancunes parce que nous distillons un poison qui détruit notre propre vie. Et puis, bien sûr, il y a toute la prison du sentiment de culpabilité, de cette angoisse d'une conscience travaillée. Bref, nous pourrions dire beaucoup d'autres choses. Mais ce que je veux souligner, c'est que dans Matthieu 5, 23, il est dit que lorsque mon frère a quelque chose contre moi, c'est à moi de faire la démarche. J'aime le souligner parce qu'il est fréquent que, avec notre cœur tellement tortueux, nous pensions que si les autres ont quelque chose contre nous, après tout, c'est bien à eux de faire le pas et de venir vers nous. La Bible ne nous dit pas cela. La Bible me dit que si quelqu'un d'autre a quelque chose contre moi et que je me rende compte, soit par son attitude directe, soit parce que j'entends des bruits, c'est à moi d'aller à la source et de dire « frère » ou « cher ami » ou « vous, monsieur, madame », est-ce que réellement je vous ai fait de la peine? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans mon attitude, vous a occasionné une souffrance? Je veux vraiment régler le problème avec vous, j'ai pu ne pas me rendre compte de telle ou telle attitude de ma part. Je fais remarquer de la même manière que dans Marc 11, 25, qui évoque la question du pardon, nous avons la situation inverse. Marc 11, verset 25, « Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Vous remarquez qu'ici, vous avez la démarche qui part de l'inverse de ce que nous venons de dire, à savoir qu'ici nous est dit « si vous avez quelque chose contre quelqu'un ». Décidément, la Bible est un vrai filet, c'est une toile d'araignée, qu'on fasse ce qu'on veut, on est toujours coincé. Nous avons toujours la tendance à penser que ce sont les autres qui doivent faire des démarches. Et vous remarquez que systématiquement, tous les textes des Écritures qui nous parlent de questions relationnelles me visent d'abord moi personnellement. Que ce soit moi qui en veuille à l'autre, que ce soit l'autre qui m'en veuille, ou encore, Matthieu 18, verset 15, que ce soit l'autre qui ait péché, c'est encore moi qui suis concerné. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Puis ensuite, on passe au processus disciplinaire qui s'étend peu à peu jusqu'à l'éventuelle même exclusion de l'Église locale. Mais vous remarquez que dans tous les sens possibles, nous sommes directement concernés. Et s'il y avait quelqu'un qui, dans le cadre de cette série de messages, en arrive cet après-midi à la conclusion que c'est encore quelqu'un d'autre qui doit faire le pas à son égard, mes amis, vous serez de mauvais entendeur. Que celui qui a des oreilles entende et réalise que c'est moi qui suis concerné aujourd'hui de quelque côté que se trouve le péché. C'est toujours à moi de prendre l'initiative. Et vous savez que nos excuses sont extrêmement variées. Je suis plus âgé, il a commencé, je suis le pasteur, pardon pour Jacques, mais nous connaissons tous nos cœurs, nous sommes tous les mêmes, ou je suis ancien dans l'Église, pardon pour celui qui est à sa droite ou à sa gauche, pardon. Je suis aîné dans la foi, j'ai tant d'expérience derrière moi. Ou bien, je suis un néophyte dans la foi. Donc, après tout, hein, il doit être suffisamment large en tant que mon aîné pour. C'est incroyable ce que nous avons comme argument. Je suis son père dans les relations de père à fils. Ou encore, ça fait trop longtemps que ça dure. Ou encore, j'étais fatigué. J'avais le rhume de cerveau. Oh, le temps était orageux ce jour-là. Que voulez-vous ? Quand on reçoit trois factures d'un coup, c'est un peu inévitable. Ou encore, ce qu'il a fait est très grave. Et nous pourrions accumuler toutes les raisons d'attendre que les démarches viennent de l'autre. Ce sont ces faux raisonnements dont parle la première épître de Jean, au chapitre 1er, lorsqu'il est dit dans les versets 5 à 8 ou 9, que d'une part, nous nous trompons nous-mêmes, nous trompons les autres, vous avez les trois directions dans le texte. C'est-à-dire que nous trompons sur toute la ligne. Nous nous trompons nous-mêmes, nous trompons nos frères et sœurs, et puis bien sûr, nous faisons Dieu menteur, c'est-à-dire que nous le trompons, nous essayons d'escamoter l'absolu de la pensée de Dieu. Nous essayons de mettre des nuances là où Dieu n'en est pas. Ces faux raisonnements qui nous conduisent en prison. Alors ici, j'aimerais redire, parce que la valeur de l'enseignement réside dans la répétition, que Dieu l'agressé a pris l'initiative de la réconciliation. Dieu l'agressé, n'est-ce pas ? Dieu nous a donné l'exemple. Et, je le redis, l'agression a été grave. Cette initiative lui a coûté cher. Et le résultat a été merveilleux puisque de nouveaux rapports ont été établis entre Dieu et sa créature. Souvenons-nous toujours de cet arrière-plan. Chaque fois que nous sommes tentés d'élaborer des systèmes de subtile autodéfense face au travail d'encouragement du Saint-Esprit à procéder selon les normes des Écritures. J'aimerais prendre maintenant un court moment pour évoquer un exemple dans les Écritures. Et nous allons d'ailleurs, aussi bien ce matin que cet après-midi, évoquer un personnage des Écritures qui a beaucoup à nous enseigner sur le pardon. Je veux parler de David. Nous aurions pu faire toute une série simplement en évoquant des chapitres entiers de son histoire qui sont uniquement consacrés au problème du pardon sous ses divers aspects. Et j'aimerais ici évoquer plus spécialement deux chapitres qui sont centrés sur cette question de la réconciliation. Ce sont les chapitres 13 et 14 du deuxième livre de Samuel. Nous n'allons pas les lire. Nous en lirons quelques extraits. Je rassemblerai simplement quelques idées de ces deux chapitres que vous pourrez relire à titre personnel. Dans ces deux chapitres, présentons tout d'abord les personnages de Samuel 13 et 14. Quels sont les personnages qui jouent un rôle? Tout d'abord, un personnage qui nous est assez connu, nous qui lisons les Écritures. Je veux parler d'Absalom. Absalom, c'est un des nombreux fils de David, issu de son mariage avec Maaca, qui était fille d'un roi païen de Syrie. Une de ces nombreuses unions, hélas, pour certaines d'entre elles illégitimes, tout à fait anormales, surtout dans la vie de ce roi que nous aimons tant. Ceci nous est dit dans 2 Samuel 3, versets 2 à 5. Absalom portait un très beau nom. Cela signifie « père de paix ». J'allais dire, il est un peu dommage que ce soit un des noms qui ne soit pas utilisé pour en affubler nos enfants, mais c'est vrai qu'il n'a jamais été à la hauteur de son nom. Et c'est la raison pour laquelle les croyants n'ont pas du tout envie d'utiliser ce prénom pour leurs enfants. Je ne vois pas comment j'aurais eu parmi les miens un certain Absalom d'Équerre. Je préfère Emmanuel, ça colle mieux. Un homme qui n'a jamais été à la hauteur de son nom. Sommes-nous à la hauteur du glorieux nom que nous portons? Sur le chemin d'Absalom, il n'y a eu que haine, intrigue, complot, meurtre et impureté. Il nous est dit dans 2 Samuel 14, versets 25 et 26, ceci, et c'est très important, dans le cadre de ces deux chapitres, chapitre 14, 25, 26, il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait parce que sa chevelure lui pesait. Il plairait beaucoup à certaines personnes aujourd'hui. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 sicles poids du roi. Et il naquit à Absalom trois fils et une fille nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. Un très beau jeune homme. Sans doute une sorte de Narcisse de cette époque. Il n'allait donc chez le coiffeur qu'une fois par an, et ses cheveux, qu'il faisait soigneusement peser, avaient donc un poids de 3 kilos. Il prenait soin de placer ensuite ses cheveux sur la balance. C'était sans doute là une projection de problème que nous allons voir dans sa vie. C'était un homme très doué. Il avait beaucoup d'habileté. La Bible nous le présente comme un excellent politicien. Un homme très doué pour les relations publiques qui a sans doute beaucoup à enseigner à nos politiciens lorsqu'ils se préparent à faire campagne électorale. Il avait vraiment le chic et le coup pour se mettre les gens dans sa poche. Je pense qu'il aurait été remarquablement télégénique. Voilà le premier personnage, Absalom. Ensuite, nous avons au chapitre 13, dans cette histoire odieuse, qui nous est présenté bien sûr non pas pour appuyer une telle immoralité, ce que pensent certaines personnes qui lisent de temps en temps la Bible, n'est-ce pas, et qui disent que la Bible est un livre dégoûtant, mais Dieu nous présente une radiographie très fidèle de ce que nous sommes. Et nous allons pouvoir d'ailleurs en tirer des conclusions évidentes pour nos vies. Eh bien, au chapitre 13, il est question d'Amnon. Amnon, c'est le demi-frère d'Absalom. Demi-frère. Et il déshonore une de ses sœurs, Tamar, c'est-à-dire une sœur issue de la même mère que lui. Et vous savez, ça n'a pas changé dans ces familles du passé où il y avait beaucoup de demi dans tous les sens possibles. Cela engendrait des clans, des rivalités, des choses absolument abominables. Surtout que Amnon était l'héritier présomptif du trône. Et suite à cette attitude abominable d'Amnon, Absalom va faire quelques constatations. La première constatation est importante, chapitre 13, verset 21. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Première constatation d'Absalom, son papa ne va pas plus loin que la colère face à cette situation absolument abominable. Et certaines versions anciennes ont même ajouté au verset 21 « Et il n'affligea pas Amnon, car il l'aimait comme étant son fils aîné. » Vous voyez cette petite remarque complémentaire qui figure simplement dans certaines versions. Une autre constatation d'Absalom, c'est qu'il voit l'état de honte, de détresse, de désespoir de sa sœur. Et donc va développer une haine profonde, soigneusement dissimulée, et ceci pendant 2 ans, verset 22 de Samuel 13, 22. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. C'était, nous l'avons dit tout à l'heure, un excellent politicien, il était capable de mettre le masque. Et la Bible nous dit que la haine, la rancune, est capable des plus parfaits déguisements. J'en veux pour preuve un seul texte parmi beaucoup d'autres, Proverbe 26, versets 23 à 26. Proverbe 26, 23 à 26. Oui, j'ai dit ceci. Comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Par ses lèvres, celui qui hait se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Et j'aimerais donc dire de la part de Dieu clairement ce matin que mon frère, ma sœur, ta rancune, pardon de te tutoyer très fraternellement, mais ta haine, ta rancune peut se dissimuler sous un masque de pseudo-sainteté. Ceci est très fortement souligné dans les Écritures. Et finalement, que se passe-t-il ? Eh bien, ce qui se passe chaque fois qu'on laisse à la haine la bride sur le cou dans nos vies, plutôt que de la traiter aussitôt au seul endroit où elle peut être vraiment réglée dans sa racine, c'est-à-dire à la croix. Bien, ce qui se passe, c'est que 2 ans plus tard, Absalom va faire froidement assassiner le coupable, et aussitôt fait, il s'enfuit chez son grand-père maternel en Syrie. Il quitte le pays. Ça, c'est une des répercussions de la haine à long terme. Ça fait partie de la prison. La haine à long terme peut avoir des effets absolument tragiques, des répercussions épouvantables dans nos relations avec ceux que nous haïssons. Troisième personnage, quatrième si nous parlons d'Amnon et de Tamar d'autre part, quatrième personnage, David. David aime profondément Absalom. Et même quand Absalom va comploter contre lui, quand il va provoquer une insurrection contre l'État, lorsqu'Absalom deviendra virtuellement parricide, assassin de son père, David donnera l'ordre aux officiers de l'armée, ceci nous est dit au chapitre 18 et au verset 5, « Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom », alors qu'Absalom l'a déjà fait souffrir de manière absolument odieuse. Et après son assassinat par Joab, la douleur de David sera absolument terrible, ceci nous est dit au chapitre 19, dans les versets 1 et suivants, on vint dire à Joab, « Voici le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. Et la victoire fut ce jour-là changée en deuil pour tout le peuple, car en ce jour le peuple entendait dire, « Le roi est affligé à cause de son fils. » Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage et il criait à haute voix, « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils. » Il est évident que David a été profondément choqué par le crime d'Absalom. Chapitre 13, verset 38. Absalom resta 3 ans à Geshur, où il était allé après avoir pris la fuite, et il est dit, le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. Joab, fils de Tseruja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Donc le temps va s'écouler, 3 ans, et peu à peu, cette affection très profonde de David pour le fils remonte à la surface et sans doute évoque-t-il ici et là Absalom qu'il aime et dont il est séparé. Joab, qui est un de ses proches, l'entend, voit le changement et il se décide à intervenir. Et nous avons alors au chapitre 14 une mise en scène à l'oriental très complexe pour nous, occidentaux, une approche très sinueuse. Nous sommes beaucoup plus directs, nous n'avons pas ces salamalek et toutes ces histoires, n'est-ce pas, qui étaient tout un préambule avant d'aborder certaines grandes vérités. Je n'essayerai pas de vous expliquer tout le détail, mais toujours est-il que le but de Joab, en se servant de cette femme habile, c'est de réintégrer Absalom à la cour royale. Et au cœur du message que cette femme va transmettre de la part de Joab au roi David se situe le verset 14, qui a été traduit de diverses manières. Une traduction dira, il ne faut pas que celui qui est banni loin de lui le reste. Une autre traduction possible dira, Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Retenons bien ceci. C'est le verset clé de notre histoire. C'est une pensée qui concerne la personne et l'activité de Dieu en faveur des siens. Et au bout du compte, David accepte le retour d'Absalom. Mais il refuse de le voir. Il le condamne à rester chez lui, comme dans une sorte de ghetto à Jérusalem. Si bien que 2 ans plus tard, 3 plus 2, 5 ans après le crime, Absalom en a assez, et il va alors utiliser un procédé très peu orthodoxe pour obliger Joab à pousser les démarches plus loin auprès du roi David. Ceci nous est dit dans la fin du chapitre 14, dans les versets 28 à 33. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi, mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois, et Joab ne voulut point venir. Absalom dit alors à ses serviteurs, « Voyez, le champ de Joab est à côté du mien, il y a de l'orge. Allez et mettez-y le feu. » Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Joab se leva, se rendit auprès d'Absalom dans sa maison, et lui dit, « Mais pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient ?» Absalom répondit à Joab, « Voici, je t'ai fait dire, viens ici, je t'enverrai vers le roi, afin que tu lui dises, « Pourquoi suis-je revenu de Guéchur ? Il vaudrait mieux pour moi que j'y sois encore. Je désire maintenant voir la face du roi, et s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. » Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre, en sa présence, le roi baisa ou embrassa Absalom. Le roi embrassa Absalom. Absalom va donc retrouver sa dignité de prince. Tout est effacé, tout est pardonné, tout est oublié. On repart à zéro, selon ce qu'une grande chanteuse disait dans le passé. Bravo Joab. Oh, je le dis volontiers. Je le dis volontiers parce que lorsque j'étais étudiant à l'école biblique en Suisse, chaque étudiant devait, selon la coutume, présider un culte le matin qui précédait le petit déjeuner. Nous avions notre tour de rôle et un texte nous était attribué que nous devions développer devant nos camarades d'études, avec une exhortation pouvant nous aider dans notre marche quotidienne. Il se trouve que ce texte de 2 Samuel 14 m'avait été attribué au cours. Et il m'a fallu des années pour me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Vous voyez combien on peut être aveugle quand on lit la Bible. Parce qu'en réalité, nous allons le voir. Si j'avais un titre à donner ce matin, je dirais que Joab a été l'artisan d'une pseudo-réconciliation. Joab, c'est le bricoleur de la réconciliation. Et il a fait du bricolage. D'ailleurs, il y a le chapitre 15 après. Et le chapitre 15 m'inquiète, comme suite du chapitre 14. Il commence d'ailleurs par ces deux mots après cela. Et nous aurions pu envisager une série d'études simplement sur ce thème, indiqué sur des affiches, après ces choses. Parce que dans les Écritures, il y a tout un enseignement qui tourne autour de cette simple petite locution, après ces choses. Elle figure des dizaines de fois dans les Écritures. Et chaque fois, Dieu nous donne un autre enseignement en nous montrant les liens de cause à effet dans les Écritures. Et ici, il y a des liens de cause à effet. Parce qu'au chapitre 15, quand on sait, n'est-ce pas, qu'il y a la fameuse campagne électorale d'Absalom, le complot abominable et toute la suite tragique, qui nous montre simplement une chose, et c'est là que je voulais en venir ce matin dans ma conclusion, c'est que David, ce grand roi, qui a tant appris dans son éducation entre l'âge de 18 et 30 ans, puisque, nous le verrons cet après-midi, 3 chapitres successifs sont consacrés uniquement dans cet apprentissage entre 18 et 30 ans de la vie de David à lui enseigner l'importance de la voie royale du pardon. 3 chapitres, 24, 25, 26. Et chacun de ces 3 chapitres va dans une direction différente et complémentaire à l'autre. Eh bien, ce roi qui avait tant appris de la part de Dieu en ce qui concerne le pardon royal, là est tombé dans un piège. Son attitude a été charnelle, elle a été de la faiblesse et non de l'amour authentique, tout simplement parce qu'il y avait dans la vie de David une faille, comme il y en a dans nos vies à chacun. Et cette faille se situait au niveau de son absence d'une saine éducation de ses enfants. Il nous est dit, par exemple, dans 1 Roi 1, verset 6, ça vaut la peine de souligner ce court verset, mais qui soulève le problème, 1 Roi 1, 6, son père, David, ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Hein? Son père ne lui avait fait de sa vie un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Et il se trouve qu'il était né de surcroît après Absalom et qu'il partageait avec lui un certain nombre de caractéristiques de caractère et aussi une fin du même style. Donc, un des grands problèmes de David a été sa faiblesse dans sa relation avec ses enfants. Et ce que nous pouvons dire ici, c'est que David s'est laissé user par le temps, par les sentiments, par les conseils spécieux, diaboliques, apparemment spirituels de Joab, évoquant la miséricorde de Dieu. Et là, je reviens sur ce verset 14, 2 Samuel 14:14. Il nous faut certainement mourir, nous serons comme des eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Alléluia. Ça, c'est notre langage spirituel. Alors, comme si Dieu avait voulu nous donner un enseignement très clair, il a apporté comme un écho très négatif à cette parole dans Ézéchiel 33, versets 10 et 11. Ézéchiel 33, 10 et 11, « Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. C'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre ? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il vive. » C'est juste, n'est-ce pas ? Je reprends, « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il vive. » Ah, merci, merci. J'ai eu comme un trou, subitement. Ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Vous remarquez que cette parole est à peu de choses près semblable à celle que Joab a mise dans la bouche de cette femme habile. Il y a une seule petite différence. Changement de conduite. Verset, d'ailleurs, la suite, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Verset 14 à 16, lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché, s'il pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. Revenir, c'est bien sûr ce qu'Absalom a fait. Il est revenu. Mais il est revenu physiquement. Il n'est pas revenu spirituellement. Dans les Écritures, revenir, c'est changer de conduite. C'est donner la preuve d'une vraie repentance. Et la faute qu'a fait David, c'est d'escamoter la repentance en réintégrant Absalom dans une relation intime avec lui. D'ailleurs, moi, je suis absolument stupéfait, chapitre 14, verset 32, lorsque j'entends Absalom avec un culot dire à Joab, vers la fin de ce verset 32, « S'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. Mais ça, c'est le reflet de notre culot à nous. Nous nous mettons parfois dans de ces situations à cause de péchés commis 5 ans auparavant, et nous osons nous présenter à Dieu le poing levé contre lui en lui disant « Mais tu vois pas dans quelle situation je suis. Après tout, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Bien sûr, c'est tout simplement parce que le péché a été commis 5 ans auparavant. Et puis, il utilise, disons-le aussi au passage, une méthode qui n'est pas très, très orthodoxe. Hein. On met le feu au champ du voisin. Comme en repentance, on pourrait faire mieux. Et dans le fond, le problème d'Absalom, c'est qu'il a voulu être réintégré dans la présence royale, la tête haute. Son seul regret, c'était d'avoir perdu sa place à la cour royale. C'était tout. Et ici, je pense à la différence entre le baiser de David à Absalom et celui du père au fils prodigue. Et voyez-vous, ce que je crois, c'est qu'une vraie repentance consiste non pas à dire simplement « j'ai péché contre toi », mais j'ai péché contre le ciel et contre toi. Une vraie repentance consiste d'abord à être brisé parce qu'on a bafoué la sainteté et l'amour de Dieu. Avant même de penser à tous nos rapports sur le plan horizontal. La vraie repentance, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je dirais qu'à la rigueur, Absalom pouvait bien dire dans l'oreille de David au moment où il lui donnait le gros bisou, « Tu sais, je sais bien que je t'ai fait de la peine. » Mais ce que Absalom n'était pas prêt à reconnaître, c'est qu'il avait bafoué la sainteté de Dieu. Et tant que nous ne reconnaissons pas que dans nos rancunes, comme dans toutes nos crasses, c'est d'abord la personne de Dieu et l'œuvre de Dieu qui est visée, qui est touchée, que c'est Dieu qui est blessé, meurtri. Je dirais que toutes nos démarches au plan horizontal n'ont pas grande valeur. Voyez-vous, Dieu est toujours animé d'un esprit de pardon. Le pardon fait partie de la structure de son être. Dieu est amour. Et le pardon fait partie du programme de l'amour. Mais il ne se laisse fléchir que par une repentance authentique. L'amour de Dieu est saint. L'amour de Dieu est juste. Et c'est cet amour qui a envoyé son Fils à la croix. Et croyez-vous que l'amour qui n'a pas escamoté la croix pourrait escamoter la repentance? Et c'est ici que j'aimerais simplement, dans mes derniers mots, faire allusion à Matthieu 18, 21-22. Matthieu 18, 21-22, il est dit, Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Oh, j'aime ce texte. Parce que Simon Pierre, il avait droit à une médaille ce jour-là. Les rabbins disaient à l'époque de Jésus, quand tu pardonnes 3 fois à ton père ou à ton frère, tu bats tous les records. Alors lui, il avait soigneusement compté, quand il était à 3, il avait dit « chic, alors, les rabbins seront contents ». Et il avait encore ajouté 4, comme il vivait dans la présence de Jésus et qu'il se doutait qu'avec Jésus, ça devait aller plus loin que les rabbins de l'époque. Alors au bout de 7, il s'est présenté, le torse bombé, bien en place pour recevoir la médaille. Et alors la réponse de Jésus, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Le pardon n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Ou comme quelqu'un l'a dit, dans l'arithmétique de Dieu, il n'y a pas de calcul mental. Ça n'existe pas. Le pardon doit faire partie de la vie nouvelle qui a été implantée en nous. Donc pas de calcul, pas de petite machine à calculer dans la poche. Or c'est un texte qui nous reprend. Mais il y a un autre texte qui lui fait écho dans Luc au chapitre 17, versets 3 et 4. Luc 17, versets 3 et 4. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Vous remarquez la complémentarité de ces deux textes. Ils sont dans le même goût, ils appartiennent à la même veine, mais là Dieu insiste sur un autre aspect, parce que les évangiles sont complémentaires. Et autant le premier texte m'invite à pardonner généreusement, sans calcul, autant le deuxième texte m'invite à rechercher le pardon de mes frères par la seule voie qui me permette de l'obtenir, à savoir la repentance. Alors, qu'est-ce que cela veut dire dans nos relations les uns avec les autres ? Cela veut dire que notre cœur doit déborder d'un esprit de pardon. Et que bien sûr, si on me marche sur les pieds 10 fois, ce n'est pas l'amertume qui va se développer dans mon cœur. Mais il y aura en moi, par le règne du Christ, une réserve de pardon. Mais, par amour pour mon frère, à l'intérieur du corps de Christ, ceux qui sont au dehors ne sont pas concernés par la question. Il est question de relation de frère à frère, vous remarquez dans le texte. Mais à l'intérieur du corps de Christ, nous sommes responsables les uns des autres. Ça veut dire qu'il arrive un moment où je dois avoir le courage de dire à mon frère ou à ma sœur, tu sais, il y a dans mon cœur une réserve de pardon, et je veux te dire que je t'aime. Mais je dois aussi te dire que dans cette situation, parce que tu es en danger, parce que tu ne prends pas Dieu au sérieux, je ne peux pas te dire que je te pardonne. Je t'aime, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de rancune en moi. Mais je ne peux pas te dire cela. Parce qu'il faut qu'il y ait maintenant de ta part un changement de conduite. Je ne veux pas dire que pour les moindres petites peccadilles, nous devions agir de cette manière. Mais c'est quand nous réalisons qu'une telle attitude s'installe chez tel ou tel de nos bien-aimés, comme parfois chez nos enfants, hein, vous savez, les enfants sont forts dans ce domaine. Hein, ils cassent les pieds à maman et à papa 10 fois, et puis au bout de 10 fois... Qu'est-ce qu'on fait ? On cède ? Ou bien, parce que l'enfant revient continuellement à la charge et refait régulièrement les mêmes bêtises, on lui dit, tu sais, chérie, j'en ai assez de te voir venir vers moi, me demander pardon et recommencer chaque fois la même chose. J'y crois pas à ta démarche. Dans le fond, tu le fais parce que ça t'arrange. Copain, copain, hein ? Maman, pardonne. Puis, tu me donnes un morceau de chocolat. Alors maintenant, tu sais, chérie, ça me fait mal, hein ? Il y a dans le cœur de papa un trésor de pardon. Tu sais, il y en a une voiture pleine. Mais papa ne peut pas te donner son pardon. Il faut maintenant que tu montres que tu regrettes vraiment. Oh, ça c'est dur pour l'enfant. Quand l'enfant commence à avoir un papa et une maman incorruptibles, devant ces pseudo-repentances, ça le fait rudement réfléchir. Alors papa et maman souffrent. Qu'est-ce qu'on peut souffrir quand on est obligé de dire à son enfant de telles choses et de se conduire en conséquence? Restez ferme. Et quand on commence à voir l'enfant troublé, qui s'installe dans une certaine tourmente intérieure, qui se rend compte qu'il se heurte à un mur, jusqu'au jour où ça craque, et où l'enfant vient avec des grosses larmes qui lui coulent le long des joues en disant « Papa Seri, cette fois-ci je veux songer. » N'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y a pas dans nos relations les uns avec les autres de ces pseudo-repentances? Ou de ces légèretés avec lesquelles on fait tant et tant de choses sans jamais les régler? En se disant qu'après tout, l'eau qui coule sous le pont du temps pourra effacer ses problèmes. Permettez-moi simplement de dire que c'était là la pensée d'Absalom. Absalom a pensé que le temps, usant la mémoire, effacerait le crime. Souvenons-nous que le temps efface le mordant du péché. Mais le temps n'efface jamais la réalité du péché. Et le crime d'Absalom était aussi grave et présent à la mémoire de Dieu 5 ans plus tard qu'au moment où il avait été commis. Le temps n'efface rien. C'est le sang de Jésus qui efface. Et vous verrez dans la Bible une similitude en ce qui concerne ce problème de la réconciliation. C'est que trop souvent, des hommes de Dieu ont pensé que le temps effaçait les fautes. Nous aurions pu partir de l'histoire de Joseph et de ses frères. 20 ans après, comme avec Alexandre Dumas, hein, 20 ans après, les frères de Joseph arrivant en Égypte pensaient que tout était réglé. Genèse 42, ils se présentent devant celui qui est leur frère et lui disent « Nous sommes d'honnêtes gens, menteurs. » Prenez Jacob. Même chose. 20 ans après. Aussi, 20 ans après. Vous vous rendez compte? 20 ans, pas 5 ans comme ici. Mais 20 ans après, quand il quitte Laban pour retourner sur l'ordre de l'Éternel vers sa terre, qu'est-ce qu'il pense? Il envoie un messager. Ésaü, j'arrive! Prépare la maison. Comme si on pouvait régler les problèmes comme ça. Alors, vous vous rendez compte un petit peu le sentiment qu'a eu Jacob lorsque le messager est revenu en disant, tu sais, Ésaü, il t'accueille, mais il vient avec le comité d'accueil. 400 hommes armés. 20 ans. Et ce que Dieu voulait enseigner par le guet de Jabok, notamment à Jacob, c'est que le chemin du retour vers la bénédiction passe toujours par une vraie réconciliation sur la base de la repentance. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si je l'ai noté par ici, la citation très exacte, oui, des rabbins, parce qu'il est question de baiser, il y a toujours le baiser de la réconciliation dans nos histoires. Genèse 33, verset 14. Genèse 33, verset 4, pardon. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Alors, et il est dit qu'ils pleurèrent ensuite après s'être embrassés. Dans le texte hébraïque, le terme « baiser » est marqué d'un signe de doute. Et ce signe de doute, ce sont simplement des petits points. Au-dessus de chaque lettre, il y a un petit point dans les manuscrits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les rabbins n'ont pas cru un seul instant à la sincérité de ce baiser. Et ils se sont imaginés qu'Ésaü avait mordu Jacob
et que tous deux avaient pleuré, Jacob parce que cette morsure était douloureuse, Ésaü parce que les dents lui faisaient mal. C'est authentique. Mais vous relirez ces deux histoires, celle des frères de Joseph et celle de Jacob, vous verrez des similitudes. Et la nécessité d'un guet de Jabok. Les frères de Joseph ont eu un guet de Jabok à franchir. Et Joseph a dû être d'une fermeté tout en pleurant. Il y avait une réserve de pardon dans le cœur de Joseph, mais il fallait qu'il y ait une humiliation de leur part. Et Dieu a disposé le cœur d'Ésaü une fois que Jacob avait abandonné tous les subterfuges, toutes les ruses pour se réconcilier sans passer par une vraie repentance. En mai-juin 83, un officier nazi coupable de crimes de guerre, la fameuse tuerie d'Oradour-sur-Glane en Haute-Vienne du 10 juin 44, qui avait fait 643 morts, massacrés, dont 500 femmes et enfants qui périrent enfermés dans l'église volontairement incendiée, bien cet officier a été jugé en Allemagne de l'Est. Et je me souviens de ma stupéfaction lorsque, entendant parler de ce jugement à la radio ou à la télévision, cet homme disait, cet officier nazi, le 26 mai 83, « Je n'aurais jamais pensé qu'on me demanderait des comptes après tant d'années. » Ce message s'adresse à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous. Que Dieu veuille inscrire ceci en lettres de feu par le Saint-Esprit dans nos cœurs, Dieu ne perd la mémoire que pour les péchés confessés et délaissés. Et le jour du jugement ressuscitera les péchés soigneusement enfouis dans les tombeaux de l'oubli. Proverbe 28, verset 13. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. À la clé du pardon de Dieu se trouve la repentance. Et une vraie repentance. Et si nous voulons pardonner comme nous avons été pardonnés et comme nous sommes pardonnés, nous devons aussi, dans nos rapports les uns avec les autres, à l'intérieur du corps de Christ, avoir cette attitude équilibrée. Je suis disposé à pardonner et je ne vais pas m'arrêter à toutes les peccadilles, mais s'il y a des attitudes qui montrent qu'on escamote systématiquement dans sa vie la repentance, je me dois de rendre mon frère, ma sœur ou qu'il le fasse vis-à-vis de moi, attentif à la nécessité d'être sérieux, parce que quand j'offense mon frère ou ma sœur, c'est Dieu lui-même que j'offense. Et ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. Ce que nous délions sur la terre est délié dans les cieux. C'est-à-dire que quand je sais que le Seigneur lui-même ne peut pas donner son pardon à l'un de mes frères, parce qu'il bafoue sa sainteté et son amour, eh bien, je dois l'enregistrer moi aussi en disant, eh bien, à ce moment-là, moi, je crois que dans cette situation, je dois retenir mon désir de pardonner auquel me poussent parfois mes sentiments. Je vais continuer à aimer cette personne, je ne vais pas l'enfermer dans un ghetto, être dur, méchant, légaliste avec elle, mais je vais quand même lui faire la remarque qu'elle est en train de bafouer la sainteté de Dieu et qu'il y a une réserve dans mon cœur quant à cette question du pardon. Et souvenons-nous enfin que nous retrouverons nos péchés non confessés. Vous connaissez peut-être l'histoire, pardonnez, je termine là. Cette histoire d'un botaniste qui se promenait un jour dans un champ, à proximité d'une ferme, lorsqu'il vit, au stupeur, une magnifique fleur des tropiques jaillir du sol, et c'était dans un de nos pays. Je dis, mais que fait cette fleur des tropiques dans ce champ? Il essaye avec un petit couteau de gratter pour la recueillir intacte, et il ne réussit pas à la sortir. Si bien qu'il se dit, mais comment est-ce que je pourrais faire? Je vais essayer de trouver le propriétaire du champ pour obtenir de lui un instrument, une pioche ou quelque chose, une binette, mais que je puisse au moins récupérer cette plante. Et il va donc à la ferme, tout près, dit, écoutez, monsieur, est-ce que cette ferme est à vous? Bien sûr, monsieur. Ce champ est à vous. Est-ce que vous permettez que j'emprunte un instrument, une petite pioche pour creuser? J'ai vu une fleur. Et il explique. Le paysan lui dit, non, vous m'excusez, vous allez abîmer tout ce que j'ai dans ce champ. Je vous interdis d'y aller. Notre botaniste se met à réfléchir après l'avoir quitté et trouve étrange l'attitude du paysan. Il se dit, après tout, je vais faire quelque chose qui n'est pas très orthodoxe non plus. Je vais aller à la tombée de la nuit avec un instrument que je vais emprunter ailleurs pour recueillir cette plante. Et il le fait. Et voilà qu'au moment où il pioche, il bute sur un obstacle, il creuse davantage et découvre alors, à son horreur, que la plante des tropiques, cette fleur, avait un oignon, un bulbe, qui était littéralement fixé dans un cadavre. Alors il va déposer au commissariat, on fait une enquête et on découvre alors que c'était une histoire d'héritage. Il y avait partage de terre et le frère du paysan à qui appartenait le champ était venu d'un pays tropical et plutôt que de partager le champ, l'héritage avec lui, le paysan l'avait tué et pendant la nuit l'avait enseveli dans son champ. Mais il avait oublié de fouiller dans ses poches. Et dans ses poches, il y avait l'oignon d'une fleur des tropiques. Et un jour, n'est-ce pas, le péché s'est révélé de cette manière. Et vous savez, il y a quantité d'autres histoires de ce genre dans les Écritures. Je pense, et je la lisais ce matin, à cette histoire authentique d'un musée de la Jamaïque qui expose dans une de ses vitrines une énorme tête de requin, tandis que la vitrine voisine exhibe une étrange liasse de vieux papiers. Et ce sont les témoins d'une singulière histoire du siècle dernier, où un navire anglais capturait dans la mer des Antilles un requin formidable, dans le ventre duquel on trouva relié par une courroie ces papiers en question. Et on découvrit que ces papiers appartenaient à un navire, le Nancy, et établissait de surcroît que ce bateau se livrait à la contrebande et à la piraterie. Et le capitaine, qui avait fait la découverte, remit ses papiers aux autorités de la Jamaïque, et il se trouve que précisément à ce moment-là, on instruisait le procès des hommes du Nancy, qui étaient soupçonnés de commerce illégal, mais contre lesquels on manquait de preuves. Ils avaient été poursuivis, jetés en mer, ils avaient jeté en mer leurs pièces compromettantes, et imaginez leur consternation lorsque, en pleine séance du tribunal, on a pu leur montrer leurs pièces, surgies en quelque sorte du fond des eaux. Un jour, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes, les secrets, les cryptes des hommes. Mieux vaut être réconcilié avec lui dans le plus beau sens du terme maintenant et vivre de jour en jour à la hauteur de cette réconciliation dont la clé porte un seul nom très peu aimé aujourd'hui, le mot repentance. Nous voulons prier. Seigneur, le message du pardon est un beau message. Nous te remercions parce que tu es vraiment le Dieu des pardons. Mais nous savons aussi qu'il y a un chemin unique, étroit, qui mène au pardon et qui passe par la croix et qui s'appelle le chemin de la repentance, la voie de l'humiliation, du regret authentique qui conduit à une rupture avec le péché et un changement de conduite. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons banalisé le péché dans nos vies et où nous avons escamoté la repentance, ou bien nous avons eu une repentance tellement légère parce que nous ne réalisions pas que c'était toi d'abord l'offensé, l'affligé dans ta sainteté. Seigneur, continue à nous parler par ta parole. Merci, parce que tu veux nous visiter. Tu veux bénir aussi la fin de ce culte. Et merci, Seigneur, parce que tu nous promets d'être heureux, bien heureux, dans la mesure où nous pratiquons ce que nous recevons de toi. Gloire te soit rendue pour la croix, pour le sang de Jésus et pour la possibilité d'un pardon total dans la mesure de notre repentance. En Jésus-Christ. Amen.